Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais commencer par répondre aux questions que peut-être, me concernant, vous vous posez. Puis me lancer avec vous sur mon dernier thème, qui durera sans doute bien plus longtemps que le temps d'une seule émission, le plaisir et la morale. Thème si important. Mais avant, voici les deux premiers thèmes abordés. Premièrement, qu'ai-je voulu dire en parlant d'amour parental lors de l'entretien avec Bertrand Vergely, qui ne m'avait pas laissé le temps de m'expliquer, mais je vous souris en disant cela. Ce sera mon premier thème. Qu'est-ce que l'hérésie ? Ce sera mon second thème. Commençons. Qu'ai-je voulu dire en parlant d'amour parental quand il s'agit de l'amour dans un couple ? Eh bien, cela veut dire tout simplement que la séparation me semble impossible au bout de nombreuses années et qu'elle met un mystère incompréhensible comme l'est tout mystère. Comment peut-on un jour, alors qu'on a partagé la vie, oui, la vie, se quitter, ne plus rien savoir l'un de l'autre? Vraiment, je me le demande. On ne quitte pas un père, une mère, un frère, une sœur, etc. On ne quitte pas quelqu'un que l'on aime et qui est de votre sang. Et comment peut-on quitter quelqu'un que la vie commune, la belle habitude, celle justement de vivre ensemble, nous a rendu psychiquement et sentimentalement consanguins? Je ne parle pas bien sûr des couples qui s'agressent, se détestent, cela en raison de se quitter au plus vite. Il y va de leur santé et de celle de leurs proches. Se quitter est alors une preuve de bienveillance. Ils se sont, comme disent les Italiens, sbagliato di persona, trompés de personne, à moins qu'ils ne soient pas faits pour vivre en couple, ce qui existe aussi. On dit qu'avec le temps, l'amour se change en tendresse. C'est vrai, et c'est faux. C'est vrai quand la tendresse était déjà dans l'amour, car quand elle n'a jamais existé, elle ne risque pas de surgir un jour. Dans l'amour, mes amis, dans l'amour passionnel, qui dure, eh bien la tendresse était déjà là dès le départ. Car c'est le grand amour qui dominait, comme ce fut le cas chez mes parents. Et rien ne sépare ces êtres qui s'aiment ainsi, ni le temps qui passe, ni la vie, ni la mort. On ne peut pas opposer, comme on le fait souvent, l'amour à la passion. Car la passion peut être dans l'amour jusqu'au bout. C'est juste une question d'intensité. Tous les êtres ne sont pas capables de passion éternelle, c'est-à-dire de grand amour. Alors la tendresse, issue de l'amour, surgit toujours d'un lien que la vie a créé, la vie commune. Se réveiller sur un visage, s'endormir sur un visage, chaque jour, chaque soir et pendant des années. Comment pouvoir imaginer la vie après cela ? Je ne le comprends pas. Qui pourra remplacer le compagnon ou la compagne de ce voyage, oui, du voyage de la vie? L'habitude, mes amis, la belle habitude, est une fête en soi, une force magnifique, mystique et charnelle à la fois, pour ceux qui, comme moi, savent en reconnaître la joie et la valeur sacrée. Bref, pour les chanceux, et non pour ceux qui la voient comme une monotonie. Peut-être parce qu'ils attendent que l'autre comble leur vide au lieu de voir devant eux la présence, l'irremplaçable présence. Oui, les années vécues ensemble rejoignent les liens du sang. Et l'être aimé est devenu, qu'il soit femme ou mari, un membre de la famille proche. Aussi, même si la tentation peut exister, même si l'un des deux avait succombé, je ne comprends pas comment on peut faire pour quitter un être qui est votre vie. Comment on peut, je l'ai déjà dit, ne plus rien savoir de lui ou d'elle. Comment il est, comment il va, comment il vit. Pour moi, ne plus revoir l'autre, c'est se perdre soi-même. Aussi, quand les couples se quittent et s'éloignent, il ne faut pas pleurer. C'est simplement qu'il n'y avait pas d'amour, car l'apothéose du grand amour, c'est d'avoir à jamais un indissoluble lien familial, parental. C'est cela pour moi, aimer vraiment. Oui, la vie en couple est un anneau d'or éternel. Et au-delà, mes amis, de l'amour sentimental et sexuel, quand on aime une personne unique aussi. Je dis bien aussi, comme un enfant, un père, un frère, eh bien on sait que l'histoire ne peut jamais se terminer. Et je crois, que le véritable amour, c'est aimer l'autre de tous les amours possibles. Pour tout vous dire, je n'ai pas d'autre perception ou expérience de l'amour. Maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, je fais une parenthèse très importante, car j'ai connu des êtres qui aimaient ainsi et n'ont pu retenir celui ou celle qui s'en allait, pour leur malheur. Je pense à la femme d'un grand chanteur de variété et que j'aimais beaucoup, qui attendait la nuit pour retrouver sa vie d'avant, de mère, de femme, dans ses rêves, et qui dans l'alcool a cherché l'oubli. Il l'aimait pourtant, mais c'était le mariage d'une exclusive et d'un volage. Il faut reconnaître que l'amour ne suffit pas pour vivre ensemble. Il y a des êtres trop dissemblables qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Ne pas avoir de goût commun, ce n'est pas important. Ne pas toujours aimer les mêmes choses, mais ce n'est pas important. Mais en revanche, les grands traits de l'âme et du caractère, et surtout de la personnalité, le sont. Un fidèle, par exemple, épousant un volage, une fidèle, épousant un volage, se passe elle-même la corde autour du cou. Pour en finir avec l'amour parental, quand je parle des deux membres d'un couple, je dirais qu'il ressemble à l'amour paulinien. Il voit tout, pardonne tout, car ce que l'on ne pardonnerait pas à un homme ou à une femme, on le pardonne à l'enfant. Je crois que vous êtes de mon avis. Il me semble que vous l'êtes. Être paternel ou maternel me semble être une priorité dans l'amour, à condition surtout que les deux membres du couple soient ainsi tissés de la même matière. Alors je sors du sujet pour faire ici une minuscule parenthèse. J'ai entendu trop de femmes croire que les hommes peuvent n'importe quoi quand ils sont guidés par le sexe. Or, en tant que psychologue, et tout simplement parce que je sais écouter et voir autour de moi, c'est totalement faux. Un homme quitte rarement une femme pour le sexe. Il peut même flamber à ce niveau-là pour une autre. C'est toujours cette autre qu'il quittera en finale, si dans son couple, il se sent bien. Les hommes, vous savez, ont rarement le goût du risque et du changement. Et ils préfèrent le confort et ce qu'ils connaissent, à l'aventure, à la cassure, à un départ vers l'inconnu. Oui, un homme part et rompt pour une raison psychologique, et très rarement pour une raison sexuelle, comme le pensent les femmes, qui, elles, en revanche, si le sexe ne les contente pas, s'en vont, dès qu'elles flambent, dans les bras d'un autre. Je généralise, il ne faut pas généraliser, mais là j'ai généralisé. Je vous parle en psychologue, c'est certain, et je ne fais pas de généralisation. À l'inverse de la pensée commune, je crois que les femmes donnent plus d'importance au sexe et aux liens physiques que les hommes. Voilà pourquoi aussi, elles projettent sur eux leur force vitale, leur libido, et se trompent. Ce que je dis aujourd'hui va consoler certaines femmes, je le sais, et leur permettre peut-être de pardonner l'impardonnable. J'ai par exemple entendu des femmes très belles se demander comment leur mari pouvait les avoir quittées pour un laidron et prêter à ce laidron un élixir sexuel. Eh bien jamais, mes amis, jamais, elles ne se sont demandé si la raison du départ de leur conjoint n'avait pas une autre cause. La cause, pouvant être par exemple qu'il se sentait beau lui, enfin, dans son regard, et avait acquis l'assurance qu'il n'avait jamais eue. J'arrête là mes exemples, mais je devais faire cette parenthèse, car l'amour que l'on chante a de multiples prismes, et que la psychologie des êtres entre toujours en jeu. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau, j'ai un chat dans la gorge. Merci. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la théologie et à l'hérésie. L'hérésie. Être hérétique, mes amis, signifie tout simplement ne pas être d'accord avec tout ce que proclame l'Église. Mais de toute manière, je vous le dis en souriant, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Il suffit de ne pas être de son avis. Il fut un temps, souvenez-vous, où les plus grands scientifiques ont tous été traités d'hérétiques. Tous. D'hérétiques et condamnés pour cela. Je donnerai l'exemple de Galilée, ce mathématicien, physicien, astronome italien du XVIe siècle. Pour l'Église, vous le savez, la Terre seule comptait, et tous les astres lui tournaient autour. Or, Galilée a fait la promotion de Copernic, affirmant et le prouvant que la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil. Il savait que la théorie de Copernic contrariait la Bible. Mais il disait avec humour, parce qu'il était diplomate, « L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment aller au ciel et non comment va le ciel. » Je l'ai mis entre guillemets, j'ai mis cette phrase entre guillemets, elle est de lui. « L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment aller au ciel et non comment va le ciel. » Mais ce qui se passait alors entre l'Église et les scientifiques était grave, très grave. On peut même dire que ces scientifiques risquaient leur liberté et leur peau. Vous voyez, mes amis Descartes, quand il a appris en 1633 la nouvelle de la condamnation de Galilée, il en fut si contrarié qu'il a renoncé à publier son livre, j'ouvre les guillemets, « Traité du monde et de la lumière », je ferme les guillemets, car lui aussi défendait la thèse de l'héliocentrisme. Mais nous savons qu'il le publiera plus tard. Pardon. La condamnation de Galilée et d'autres scientifiques a montré, vous en souvenez, la puissance de l'Église sur la science et l'interdiction de contrarier la théologie et l'Église. Tous les scientifiques, vous m'entendez, tous les scientifiques devaient se taire, ne jamais oser proclamer une vérité qui n'était pas celle de l'Église. Et il est vrai que la peur en a rendu certains muets. Et vous savez qui a reconnu officiellement les erreurs de l'Église, vous vous en souvenez? Jean-Paul II, en 1992. Oui, mais voilà. Ce qui se passait en science, c'est ensuite passé ailleurs. Déplacement, dirait Freud. On ne condamne plus un Darwin osant avoir découvert une origine animale, alors que nous étions censés être sortis resplendissant des mains du Créateur. Mais les erreurs de l'Église, dans les autres domaines, sont hélas manifestes. L'Église, attention, je ne condamne pas l'Église. L'Église qui nous a appris le principal, et nous ne pouvons que l'en bénir, veut que nous prenions les récits bibliques d'une manière littérale et radicale. Mais elle fait pire encore. Elle fait pire. Ce qu'elle ne sait pas, elle l'invente. Et là, voyez-vous, mes amis, je parle de théologie. Non seulement j'aime apprendre, il fut un temps, oui, j'allais oublier de vous dire ça, il fut un temps, à force de côtoyer mes amis dans quel cas, moinémonial, où j'avais le désir, figurez-vous, de m'inscrire en théologie. Parce que non seulement j'aime apprendre, mais j'avais le désir de lire les textes bibliques en grec et en hébreu. Ambition démesurée, bien sûr, car on n'apprend pas du jour au lendemain de si belles langues. Jusqu'à ce que je me rende compte que la théologie n'était pas pour moi, qu'elle n'était en fait, et selon moi, qu'un jeu intellectuel. Je ne dis pas qu'elle ne se base pas sur les vérités principales. Non, je ne dis pas cela. Mais elle a su faire de ses ignorances, de nos ignorances, des certitudes à avaler. Jeu intellectuel aux conséquences parfois désastreuses. Car les théologiens, pour la plupart, se font créateurs, vous m'entendez, créateurs. Et ceux qui les croient, les prennent pour des messagers de Dieu, alors qu'il n'en est rien. Oh, excusez-moi encore. Autant j'aime les spirituels, les pères de l'Église, autant je me méfie des théologiens. En fait, mes amis, je préfère une âme qui doute, mais qui cherche, aux prétentieux théologiens. Je ne crois pas tout ce qu'avec l'Église ils affirment. Alors là, vous serez contrariés, mais je ne l'espère pas, vous serez amusés. Parce que je vais y aller, fort, jusqu'à ce que je me rende compte, je vous l'ai dit, que la théologie n'était pour moi qu'un jeu intellectuel. Bon, jeu intellectuel, vous m'entendez, aux conséquences, selon moi, désastreuses. Car les théologiens, comme je viens de vous le dire, se font créateurs, et comme je viens de vous le dire, ceux qui les croient les prennent pour des messagers de Dieu alors qu'il n'en est rien. Autant j'aime les spirituels, autant je me méfie des théologiens. Je répète exprès parce que c'est très important. Oui, je ne crois pas tout ce qu'avec l'Église ils affirment. Alors, on y va. Le péché originel. Jésus n'en a jamais parlé. Jamais. Ce n'est pas parce que le péché existe qu'il faut inventer la réponse. Est-ce le péché de chair ? Je ne crois pas. Car pourquoi Dieu, qui nous a créés, aurait-il mis le désir et le plaisir dans le corps si c'était un péché d'en jouir ? Vous pouvez me le dire ? Je ne crois pas. Il y a un illogisme incroyable en pensant cela. Et en plus, un sous-jacent, vous m'entendez ? Un sous-jacent reproche à Dieu. Il en va ainsi de toutes les paroles inventées, de toute cette vie humaine convertie en péché. C'est en pleurer ou en rire. Mais les âmes fragiles en pleurent. La gourmandise, par exemple, a un péché, mais c'est pareil. On oublie celui qui nous a fait et voulu ainsi, le Père des hommes. Mes amis, serait-il à ce point pervers de nous obliger à la tentation, au désir, au plaisir, pour nous l'interdire et nous punir si l'on y succombe ? Aucun théologien ne se rend compte de l'ineptie de la chose. Et heureusement que Jésus est venu en ce monde pour nous montrer qu'il voulait pour nous la vie en abondance. Il nous a offert le meilleur. Et le meilleur, c'est non seulement la joie, mais aussi le plaisir. Alors le péché, est-ce de céder au serpent ? de vouloir goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Mais pourquoi, mes amis, pourquoi ? Dieu n'aurait-il pas voulu que nous sachions différencier le bien du mal ? Pour rester dans la nuit ? Et quelle morale possible, pour les hommes si nous ignorions la différence entre le bien et le mal ? Jésus plaçait l'amour au-dessus de toute morale. Jésus ne voulait pas la prétention de ceux qui se croyaient dans le domaine de la religion et de la morale, les détenteurs de la vérité. Souvenez-vous de sa manière d'agir envers les pharisiens ou certains docteurs de la loi. Et qui jugeait, je répète la phrase, Jésus ne voulait pas la prétention de ceux qui se croyaient dans le domaine de la religion et de la morale, détenteurs de la vérité, et qui jugeaient et méprisaient les autres. Oui, on se souvient, mes amis, de sa colère, et même, osons le dire, de son antipathie envers certains pharisiens ou autres. Oui, il y a un risque de péché à se croire souverain et détenteur des vérités. Quel risque, me direz-vous, quel risque ? Eh bien, le risque de blesser les frères. Alors, c'est peut-être cela, le danger de ne pas résister à l'arbre. L'Église et les théologiens qui en font partie ou pas. Car il y a des théologiens athées, vous le savez, ça semble paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a des théologiens athées qui se sont lancés dans cette étude pour pouvoir convaincre, non de l'existence de Dieu, mais de leur propre pensée, et qui se lancent dans la théologie par goût, comme d'autres se lancent dans l'histoire, la science ou les arts, qui osent proclamer sans cesse que nous sommes des pécheurs. Je me révolte, et j'espère que vous vous révoltez aussi, parce que c'est fort, c'est vraiment très fort. Je sais que Jésus a dit qu'il était venu pour les pécheurs, mais je sais aussi qu'il les aimait, bien plus que les bornés théologiens. En plus, quand on lit l'Évangile, comme il faut le lire, avec le cœur, on se rend compte que ce qu'il appelait péché n'a rien à voir, mais alors rien à voir, avec ce que nous appelons péché. Et il suffit non seulement d'aimer le Christ, mais d'être intelligent pour le savoir et aussi lire. Jésus, selon moi, est venu surtout et avant tout pour nous sortir du désespoir, comme j'ai su le montrer, j'espère, dans mon livre « Jésus ou le premier de cordée ». Quelle est cette insistance, me direz-vous ? Quelle est cette insistance ? Quelle est cette insistance des prêtres et des théologiens à nous répéter à longueur de vie que nous sommes pécheurs, fautifs, coupables et que nous devons toujours battre notre culpa ? Nous sommes-nous créés nous-mêmes ? Certes pas. Tout était possible à Dieu, mes amis. Il aurait pu nous créer autrement. Eh bien, vous voyez, si l'on poussait trop loin les pensées de l'Église ou des théologiens, on en arriverait, et ce serait alors le véritable péché à reprocher à Dieu de nous avoir créés ainsi, et l'on pourrait se rebeller. On en aurait le droit. Il y a bien le péché sur terre, il y a bien, il existe, il est là, on le voit, il est partout. Il y a bien le péché sur terre, et pourtant, Dieu est Dieu, et il nous aime. Et il nous aime. Il est en effet venu aussi en rédempteur. Il a pris également sur lui tous les péchés du monde. Et vous imaginez la brûlure de la douleur qui fut la sienne en tant qu'homme et en tant que Dieu. Je ne nie pas le péché sur terre. Mais je nie que nous en connaissions la cause. Il y a bien eu, vous savez, un combat entre la lumière et les ténèbres. Mais nous n'en savons pas plus. Nous n'en savons pas plus. Je ne crois pas non plus à cette épidémie de péché de mort traversant les siècles parce que Adam et Ève, un jour, ont péché en désobéissant à Dieu. Je ne crois pas que Dieu, qui est l'amour, aurait fait une telle chose, punir si atrocement tous ses enfants qui suivraient d'une faute qu'ils n'ont pas commise. Jésus qui est Dieu, souvenez-vous, qui me voit le Père. C'est Jésus qui parlait. Eh bien, Jésus qui est Dieu a trop aimé les hommes d'une manière personnelle pour qu'il en soit ainsi. Là encore, mes amis, je suis, et j'en suis heureuse, hérétique. Mais ne vaut-il pas mieux l'être, selon vous, par rapport à l'Église, que par rapport à Dieu? Je vous pose la question. Et le purgatoire dont il parle, sans crainte aucune, devant les âmes envahies par la souffrance le jour du départ d'un être aimé, croyez-vous que j'y crois? Mais certes pas. Il s'agit d'une invention qui n'a pas toujours existé. Comme les limbes, qu'ils ont finalement, heureusement, retirés. Vous vous souvenez? Quand les bébés morts sans baptême n'avaient pas le droit d'entrer au ciel? Et des larmes des parents? Vous vous en souvenez? Eh bien, avec le purgatoire, on continue d'exercer le supplice des cœurs. Le purgatoire, mes amis, Jésus n'en a jamais parlé. Il fallait donc, n'est-ce pas, remédier à cette lacune et oublier les paroles de Dieu dites au bon larron « Dans un instant, tu seras avec moi au paradis. » Oui, avec leurs petits esprits, ils ont voulu que les hommes, encore après la terre, souffrent, comme si la terre, avec ses souffrances, ses larmes, n'était déjà pas un purgatoire suffisant, malgré ses joies et ses beautés. Vous savez, mes amis, parfois je pense qu'entre l'athéisme décourageant de ce siècle, qui nous promet la cendre, et une certaine religion qui provoque la peur et le malaise, eh bien les hommes sont bien courageux de vivre. Mais c'est sans doute le Dieu qui vit en eux qui leur en donne la force. Il y a bien des consolateurs sur cette terre parmi les religieux et les athées. Oui, parmi les religieux et les athées. Mais hélas, ce n'est pas la majorité. Alors pour un athée, vous me direz, ce n'est pas grave. Il avance à visage découvert. Il ne peut parler que de ce qu'il connaît, le rien. Et personne, en profondeur du moins, ne peut être blessé par le rien. Mais ceux qui se disent de Dieu et qui ne sont pas capables de consoler les hommes, feraient mieux de se taire et de rester chez eux. Je suis hérétique quand je vois l'Église si loin du Christ et si follement désobéissante à ses propos. Je vais prendre deux exemples. L'Eucharistie. Jésus l'a inventé pour se donner à tous les hommes. Il a même spécifié le jour de la scène, son dernier repas sur terre, en tendant à ses disciples la coupe de vin devenue son sang, j'ouvre les guillemets, pour vous et pour la multitude. Le jour de la scène, son dernier repas sur terre, en tendant la coupe à ses disciples, il a bien dit aussi, la coupe devenue son sang, pour vous et pour la multitude, je le répète, et l'Église interdit à certaines personnes d'avancer vers lui. J'ai tant parlé de cette faute indicible de l'Église que je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je suis hérétique aussi dans un sens plus doux, quand je n'admets pas la phrase que le prêtre fait dire en chœur à ses paroissiens, disons, aux enfants de Dieu. Je vais la retrouver, voilà. Prends pitié, Seigneur, prends pitié. À qui demande-t-on cela? À qui faisons-nous cette prière? À quelqu'un qui nous agresse, qui nous veut du mal, à un tyran, un violent, un sadique, Dirait-on cela à un père, à quelqu'un qui nous aime? On ne le dirait pas. On ne peut dire ces mots qu'à un bourreau. Alors pourquoi l'Église n'a-t-elle pas pensé à les enlever? Je sais qu'ils ont été formulés dans l'Évangile, mais nous, enfants de Dieu, nous n'avons nulle envie de les prononcer. Alors je suis hérétique sans doute aux yeux de l'Église, quand je confie aussi que je ne crois pas toutes les paroles, que toutes les paroles prononcées dans l'Évangile soient de Jésus. Vous savez bien comment on relate les choses. Je ne le vois pas, par exemple, comparer une femme à un chien, ramassant les miettes sous la table, voilà un exemple, et il y en a d'autres. Jésus n'a rien écrit. Il n'a rien signé de sa main. Tout est rapporté. Je crois en lui, à sa présence, à sa mort, à sa résurrection, et je crois qu'il nous attend tous en nous tendant les bras, comme dans le magnifique tableau de Reynald. Je crois qu'il fut et est un homme exceptionnel, un génie de l'amour et de l'intelligence, un créateur amoureux de la terre, où il a su vivre, aimer, rire et profiter des joies de la vie. Je crois qu'on l'a défiguré en pensant l'honorer, et ce fut peut-être le plus grand péché des religieux. Je suis aussi hérétique quand je me moque de l'importance que les catholiques donnent à la pureté. Je vous donne l'exemple de la Vierge que j'aime tant. Les catholiques et les protestants s'opposent en vain, c'est-à-dire aussi ignorants les uns que les autres. Marie a-t-elle eu un fils ou plusieurs enfants? Les catholiques prêchent pour l'enfant unique et les protestants pour plusieurs. Alors, j'ai tendance à croire que le catholicisme a raison, mais quelle importance? Étant fils de Dieu, Jésus ne pouvait naître effectivement que d'une jeune fille vierge. Il n'était pas question qu'un homme intervienne, cela va de soi. Mais ensuite, que Marie ait eu ou non plusieurs enfants, ne pourrait l'empêcher d'être la mère de Dieu et de tous les hommes. Voir dans la virginité physique et éternelle la pureté magnifiée, sanctifiée, eh bien je vais vous dire, c'est confondre le sexe avec le diable. Et d'ailleurs, mais c'est ainsi qu'il est confondu chez certains religieux bornés. Je dis certains, car heureusement, tous les religieux ne le sont pas. Et je suis ami avec tant de religieux que je suis bien placé pour le savoir. Alors nous ne sommes pas loin de la question vaine que se posent les personnes. Jésus a-t-il aimé Marie-Madeleine? Ont-ils vécu une histoire sentimentale ensemble? Bref, a-t-il agi en homme avec elle? Il faudrait avoir vraiment une curiosité malsaine. Hein, il faut vraiment avoir une curiosité malsaine pour se poser cette question, ou une solide stupidité, comme disait Saint-Exupéry dans son livre La Citadelle. Solide stupidité. Car franchement, nous n'en savons rien, et je dirais que cela n'a aucune importance, et même que cela ne nous regarde pas. Il était Dieu, il pouvait résister. Il était homme, il pouvait aller au bout de l'amour, et la chair n'est pas un péché. Oui, cela ne nous regarde pas, ne nous concerne pas non plus. Je fais une parenthèse. Si le sexe, qui est un besoin du corps, était un péché, alors tous les besoins le seraient. La faim, la soif, le sommeil. Je ne continue pas. Vous voyez l'ineptie de la chose. Et comprenez pourquoi Nietzsche s'est rebellé par amour de la vie contre une religion cassatrice et destructrice, et pourquoi j'ai tant aimé ce philosophe. Parler de Jésus, mes amis, chers auditeurs, chères auditrices, mes amis. Parler de Jésus, c'est parler d'un homme gai et vivant, intensément, car il était ainsi, comme l'a montré Didier Decoin dans son beau livre « Jésus » ou le Dieu qui riait. Il faut cesser de le défigurer, de ne le voir que sur la croix. La croix était le final de sa vie terrestre, mais il a vécu 33 ans avant. Oui, il riait, il marchait, il mangeait, il buvait, il vivait la vie des hommes avec intensité. Figurez-vous que je ne crois pas non plus, à la trahison terrible de Judas. Je crois, mais là c'est mon avis, je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Personnellement, je crois qu'il a été l'instrument premier de la rédemption. Je crois qu'il a aimé Jésus au point d'accepter d'être haï par les hommes et d'être qualifié de traître pour le temps de la terre. Jésus devait mourir pour ressusciter. Oui, pour l'amour de Jésus, il acceptait ce rôle affreux. Je pense cela, mais dites-vous bien que je pensais quand j'avais 10 ans. Il ne s'est pas suicidé par culpabilité, selon moi, mais par chagrin. Alors aujourd'hui, mes amis, j'ignore. J'ignore si au ciel, Judas a demandé pardon à Jésus ou si Jésus lui a dit merci. Alors vous me direz que moi aussi je parle sans savoir et vous aurez raison, mais je livre mes intuitions et non mes certitudes. Et je n'impose pas mes pensées comme des dogmes. Bref, je ne suis pas théologienne. Quant à la pauvreté de Jésus, que l'on met en avant sans cesse, alors là, je ne suis plus hérétique, je suis complètement en colère. Il n'était ni riche, ni pauvre. Il était Dieu. Et descendre et quitter le ciel pour la terre, c'est déjà peut-être s'appauvrir. Alors là encore, je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que j'en ai parlé ailleurs. Il avait des amis riches et même généreux. Alors il est faux de proclamer continuellement qu'il n'aimait pas les riches. Non, il n'aimait pas les égoïstes. Ceux qui vivaient les yeux clos et les mains fermées, c'est tout. Et c'est bien différent. Il était à l'aise partout, vous vous souvenez? Il était à l'aise partout, dans tous les milieux. Son père adoptif était charpentier, il l'était lui aussi. Et je pense que dans sa maison, il ne manquait de rien. Alors, vous me direz peut-être qu'il a dit lui-même qu'il n'avait rien pour reposer sa tête. Oui, il l'a dit, mais il ne parlait ni maison ni oreiller. C'est bien plus profond que cela. Étant Dieu, sur qui ici-bas se serait-il vraiment reposé? À qui, par exemple, aurait-il pu tout confier, et se confier? Alors vous me direz peut-être qu'il est né dans une étable, mais il s'agissait d'un cas très précis. Non seulement les hôtels étaient pleins, il n'avait pas le temps d'attendre et de chercher. Marie allait accoucher. Oui, même Crésus, mes amis, se serait arrêté dans l'étable, sur son chemin, si pour sa femme le moment était venu. L'étable fut une chance, et non la preuve, d'une pauvreté recherchée par Dieu. Le jeune homme riche, me direz-vous. Oui, Jésus l'a aimé. Il ne s'est pas mis à ne plus l'aimer qu'en cause de ses biens et refusa de le suivre. Il fut triste, juste triste, car il savait ce dont le jeune homme allait se priver. La théologie de l'Église ne parle que de la pauvreté matérielle. Elle en fait un titre de gloire pour les pauvres et un péché pour les riches. Car seront, dit-elle, bannis du royaume, ceux qui ne partagent pas. Ce faisant, elle engage les riches à s'appauvrir et les pauvres à quémander, ce qui n'est pas très enthousiasmant. Ce langage est davantage un langage politique de gauche qu'un langage de haute religion. Je dis haute religion, comme je dirais haute mère. Je veux dire qu'elle ne fait pas prendre aux hommes de la hauteur et ne leur demande pas tout simplement de lever les yeux vers le ciel. Il y a pire que cela. Ne voyant que la pauvreté matérielle, elle ne voit pas les autres pauvretés. Ces pauvretés qui sont nombreuses. Oui, mes amis, vous le savez autant que moi d'ailleurs, je ne vous apprends rien. Un riche, peut-être un grand pauvre, de joie, de santé, d'espérance ou de toute autre chose. Mais les riches, les beaux, les talentueux, sont des marginaux pour l'Église. Nul ne les prend en pitié, même quand ils souffrent, invisiblement et atrocement. Oui, il y a une théologie qui montre la pauvreté comme une étoile ou un signe de sainteté. Je reconnais que l'argent est une liberté et qu'il vaut mieux souffrir dans le confort que dans la misère. Mais je déplore cet hymne à la pauvreté que chantent l'Église et les théologiens, pour la plupart du moins. Je crois personnellement qu'entendre la phrase de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » suffit, ou devrait suffire, pour ouvrir nos cœurs, nos bras, nos mains. Mais voyez-vous, mes amis, j'en arrive maintenant à vous confier ce qui peut sembler de ma part une grande hérésie. Je donne à l'Eucharistie l'importance que lui ont donné tous les saints. Derrière l'hostie, il y a le Christ. Il y a Jésus. L'hostie n'est pas une chose, c'est une personne, corps et âme. Quand on communie, il est en nous. Nous sommes en lui. Il a inventé ce sacrement juste avant son départ pour nous sauver, même malgré nous, et du péché et du désespoir, car il savait qu'il allait quitter la terre et que nous ne pouvions pas vivre sans lui. Je répète, il savait qu'il allait quitter la terre et que nous ne pouvions pas vivre sans lui. Il a voulu rester, il l'a dit, avec nous, jusqu'à la fin du monde. Alors, pourquoi parle-t-on de sacrifice de la messe? Mais de quel sacrifice parle-t-on? J'ai la chance, je vous l'ai confié, d'avoir de nombreux amis religieux, prêtres, moines, moniales, mais on a beau m'expliquer, eh bien je comprends toujours pas. Je ne vois dans l'Eucharistie personnellement aucun sacrifice. Je ne vois que l'infini amour du Fils de Dieu pour nous. C'est le seul moyen, mes amis, qu'il ait trouvé pour ne pas nous quitter et rester avec nous. Le seul moyen aussi pour que nous devenions aussi pécheurs que nous soyons, un peu lui, car au moment où il entre en nous, nous sommes devenus consanguins pour l'éternité. Je laisse passer un bobino.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Je ne me sens pas hérétique. Je pense au contraire à ce sujet-là que ceux qui parlent de sacrifice de la messe le sont sans le savoir. Par rapport au Christ, l'Eucharistie est un miracle qui se renouvelle chaque fois. Et parce que nous en avons pris l'habitude, nous pouvons le vivre calmement, en humain. Car si nous prenions vraiment conscience de ce miracle, on pourrait en mourir de bonheur et de stupéfaction. Oui. L'enthousiasme serait si grand qu'il pourrait nous tuer. Alors on fait le rapprochement entre l'Eucharistie et la croix. Franchement, là encore, je ne vois aucun rapport entre les deux, si ce n'est que Jésus a institué l'Eucharistie avant la croix. On fait ce rapprochement peut-être au nom du sang. Jésus a versé son sang sur la croix en souffrant le martyr et il nous donne son sang à boire. Jésus a eu sa chair torturée sur la croix et il nous donne son corps à manger. Voyez-vous un rapport entre les deux actes du Fils de Dieu? Eh bien, pas moi. Dans les deux cas, c'est l'acte du plus grand amour. Dans les deux cas, il se donne. Mais l'intention n'est pas la même. La croix est un supplice et un grand mystère. Le Rédempteur est cloué, il est cloué sur la croix. C'est un mystère qui nous dépasse. Mais il fallait la mort pour ressusciter et nous enlever à jamais la peur de la mort. L'Eucharistie est un miracle et une fête qui se renouvelle. Elle a été instituée par amour, par Jésus, pour ne pas nous quitter. Il l'avait bien dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Je me demande, mes amis, aussi autre chose. Pourquoi le prêtre se tourne vers le Père et non vers le Fils au moment de la consécration? C'est l'invention de Jésus. Ce sont les paroles de Jésus. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Bon, j'arrête là, mais nul prêtre n'a su jusque-là me répondre. Le jour des cendres, parlons-en. Je n'y vais plus, car c'est pour moi une cérémonie où un athée serait bien à sa place. Et ça me trouble, autant que si je voyais éclater, vous m'entendez, éclater une lune noire dans un ciel d'été. Le prêtre nous montre notre destination finale en nous faisant une croix de cendre sur le front. Et je retournerai à l'église le jour où il glissera également dans ma main un cierge allumé. Notre destination finale n'est pas la cendre, c'est la lumière. Il est inutile de nous parler du corps glorieux pour nous rappeler sans cesse un destin de cendre. Alors, je n'ai pas le temps ici de tout développer, mais je ne crois pas tous les discours de la Bible ou de l'Église, et encore moins ceux des orgueilleux théologiens. Oui, je sais, je commets un pléonasme, mais tant pis. Il y a dans l'Ancien Testament quelque chose d'étrange. Une collaboration de Dieu et le diable, comme si le tentateur était au service de Dieu. On retrouve cela dans l'Évangile sous une autre forme. Satan tente et l'homme résiste ou succombe. Autrement dit, choisit Dieu ou Satan. Ce qui donnerait à penser que Dieu aurait donné la permission à Satan d'agir ainsi, comme s'il voulait à tout prix être choisi. Et c'est peut-être pour cela qu'il aurait laissé la liberté aux hommes pour être choisi. Mais vous savez, quand on l'entend comme ça, quand l'Église parle ainsi, eh bien, moi, je souris tristement, parce que ce serait très pervers de la part d'un Dieu qui aime ses enfants. Quand Jésus, dans la prière qu'il nous a donnée et apprise, nous fait dire à Dieu, ne nous laisse pas succomber à la tentation, eh bien, moi, je pense qu'il s'agit d'une seule tentation, tout simplement, celle du désespoir. Oui, la tentation du désespoir. C'est le titre d'un livre que j'avais écrit un jour, c'est même celui qui m'a ouvert toutes les portes après de l'édition religieuse, mais je le crois vraiment, et j'aimerais que vous le croyiez aussi. Le Christ est venu pour nous sortir du désespoir. Il est mort pour ressusciter. Nous dire que l'éternité l'attendait et que l'éternité nous attend aussi. Être parfois hérétique par rapport à l'Église me peine beaucoup. Et je le suis chaque fois que je suis choqué par ses propos et ses interprétations qui pourraient blesser les hommes. Alors je prends l'exemple, vous me direz qu'il est petit, en fait il est terrifiant. Entendre le jour du mariage la phrase « jusqu'à ce que la mort vous sépare. » L'Église, mes amis, nous parle d'éternité, d'amour plus fort que la mort. Et là, un jour de fête, elle ose prononcer une telle phrase. Il aurait fallu dire « vous sépare momentanément », car il est vrai que la mort nous sépare momentanément. Mais remarquez, l'Église savait ce qu'elle disait, puisqu'on peut sans problème se remarier après la mort d'un conjoint. La théologie inventée par l'Église ou par des théologiens extérieurs est un art intellectuel d'exégèse parfois, mais c'est aussi l'art de tromper. C'est aussi une prise de pouvoir. On parle de Dieu. On parle d'un monde céleste que l'on ne connaît pas. Et on fait orgueil suprême par les dieux. La théologie se dit servante de Dieu et elle peut l'être parfois. Mais souvent aussi, elle le trahit. Alors moi je suis hérétique parfois, même souvent, mais certes pas toujours. Quand l'Église veut que je croie l'impensable en citant par exemple le passage de l'Évangile où s'affronte le diable, bref les passages des tentations de Jésus, eh bien aucun théologien de l'Église n'a marqué sa stupéfaction en voyant Satan proposer à Jésus les royaumes de la terre. Cela signifierait que la terre appartiendrait au diable, ou que Dieu lui aurait laissé la jouissance. Lui en aurait laissé la jouissance. Or, nous savons que Dieu a créé la terre. Alors, voyez-vous, il y a des paradoxes à n'en plus finir. Alors, il faut savoir abandonner les élucubrations et se calmer dans l'absolue confiance en Jésus-Christ. Si vous le permettez, avant de rentrer dans mon thème principal, la morale et le plaisir, je reprends une goutte d'eau. Merci. Alors, la morale et le plaisir. Ce n'est pas un cours. Non, je vais juste aujourd'hui vous dire ce que j'en pense. Car voyant que je n'en fais jamais l'apologie, vous pourriez croire que je ne lui donne aucune valeur, et bien ce serait vous tromper. Mais pour moi, il y a la vraie morale, nécessaire, noble et bénéfique, et la morale destructrice et perverse, à qui je n'offrirai jamais le bon nom de morale. Je vais commencer par poser une question. Quelles sont pour moi principalement les deux morales destructrices? Eh bien, la première, la morale dictée par la religion, et la morale qui s'appelle le devoir, morale que Kant a si bien définie. Voilà, les deux morales. Les deux morales, la morale dictée par la religion et la morale qui s'appelle le devoir. Morale que Kant a si bien définie. Elles sont différentes, me direz-vous. Oui, elles sont différentes, mais elles sont toutes deux inhumaines. La première, la morale religieuse, lutte contre la vie de la terre. Et la seconde, la morale de Kant, fait passer le devoir avant l'amour. La première voit le plaisir comme un péché, et la seconde, avec ses impératifs catégoriques, n'a aucune souplesse. Elle proclame « tu dois » ou « tu ne dois pas » et c'est tout. Souvenez-vous, je le redis de Kant, qui osait demander de ne jamais mentir, même pour sauver quelqu'un. Faire passer la morale avant l'amour me semble non seulement une erreur, mais la faute suprême. En fait, et pour tout vous dire, je juge souvent la morale religieuse et la morale du devoir inhumaines, désincarnées. Je dis souvent, et certes pas toujours, car il m'arrive de les rejoindre et l'une et l'autre, sur bien des points. Par exemple, la morale religieuse, quand elle affirme qu'un homme est enfant de Dieu et qu'il saurait se comporter n'importe comment. La morale kantienne, quand elle affirme qu'il faut toujours considérer une personne comme une fin et jamais comme un moyen. Alors là, mes amis, entre parenthèses, je vous le dis, je vois là un Kant bien paradoxal. Car permettre que cette personne considérée comme une fin puisse mourir, parce que l'on refuserait de mentir pour la sauver, nous ferait, n'est-ce pas, loin de glorifier le devoir, le haïr. Il me semble que si le mensonge est un défaut, et même pour les religieux un péché, il devient en certains cas précis une vertu. Il me semble qu'il peut y avoir, et c'est tragique, dans la dureté du devoir à tout prix, comme de la vertu à tout prix, un manque d'humanité et d'amour incroyable. Oui, j'aime la vérité et les êtres de devoir, mais pas quand la vérité est une arme et le devoir un glaive. Nous développerons ces thèmes un peu plus loin. Je vous confie que j'aime Bergson et sa vision claire des deux morales, la morale close et la morale ouverte. Et ces deux morales, selon moi, sont nécessaires. Je vous rappelle, la morale ouverte est celle des saints, des héros, de ceux qui apportent à la terre le vent du large. Bon, elle est celle de l'amour. La morale close est celle de la société, celle des règles, des normes, des obligations, des lois. Les deux sont nécessaires, et l'on ne pourrait se passer ni de l'une ni de l'autre. Je dirais même, mes amis, que la morale close est primordiale. Car sans elle, aucune société ne pourrait exister. D'ailleurs, vous le voyez bien, on constate aujourd'hui son importance extrême, car hélas, elle est moins visible. Cette morale est réglée comme du papier à musique, sous forme de lois et d'interdits, mais si elle ne chante pas à la hauteur, la grandeur, la pureté de l'âme, eh bien elle chante silencieusement l'amour d'autrui. Elle voit dans l'autre personne, dans l'autre, elle voit dans autrui un visage, une âme. Et croyez bien que la courtoisie, la politesse sont liées pour moi à la reconnaissance d'autrui, au respect de l'autre, bref, à la morale, la vraie morale, la morale vitale. Cette morale qui, hélas, je le redis, n'existe presque plus aujourd'hui. Je dis presque, car vous me connaissez, je ne veux pas jamais généraliser. Alors nous avons parlé l'autre fois, nous avons parlé l'autre fois, en compagnie de mon invité Bertrand Vergely, de l'antique philosophe cynique Diogène. Nous en reparlerons plus loin si vous le voulez bien. D'ailleurs, mon invité, souvent paradoxal, qui aime et le répète sans s'arrêter, la tenue en tout et la retenue, a exprimé son amour pour ce cynique philosophe, Diogène de Sinope. Alors personnellement, vous en doutez, ce n'est pas mon cas. Je tiens trop pour règle humaine précieuse la politesse, la courtoisie et même la propreté. Je n'appellerai jamais philosophe celui qui se tient uniquement dans la provocation, comme ce fut le cas de Diogène. Ne pas se laver. Parler mal aux gens. Déféquer et uriner dans la rue, exhiber son sexe sur la place publique, ne me semble pas le sommet de la morale et de la philosophie, mais plutôt celui d'un dérangement psychique. En tout cas, une preuve d'irrespect total et de violence sous-jacente. On n'arrête pas de nous dire que Diogène était un être authentique, mais l'authenticité pour moi, ce n'est pas cela. C'est la vérité, la simplicité. Et non la volonté de choquer. Imaginez, mes amis, Diogène actuellement dans nos rues à Paris, déféquant et urinant sur les murs, se masturbant en public. Il serait vite embarqué par la police et non glorifié comme un grand philosophe. La morale dans la cité n'inclut jamais. Elle n'inclut pas du tout seulement les valeurs qu'on appelle élevées, mais celles qui permettent tout simplement de vivre ensemble. Elle exige donc le savoir-vivre. Et le savoir-vivre n'est pas uniquement le code appris des bonnes manières. Il est un acte, ou plutôt des actes, issus de la bonté et du respect d'autrui. Il s'apprend, oui, mais il y a des êtres dans tous les milieux qui le possèdent d'une manière innée. Oui, il s'apprend, mais il y a des êtres qui le possèdent d'une manière innée. C'est vous dire qu'il a bien un lien avec la considération d'autrui et la bonté. Je connais un homme, et c'est mon père, qui, arrivé du Nord à 15 ans au conservatoire de Paris, préférait se priver d'un repas pour offrir des fleurs aux personnes qui l'invitaient. Par exemple, je connais un paysan du Tarn qui était un seigneur dès qu'il quittait sa salopette et ses champs. Il s'appelle toujours Élisée Dobre, et sans avoir appris la philosophie, il était pour moi un grand philosophe. Il n'avait pas besoin d'uriner par terre pour être authentique, parce qu'en plus de l'authenticité, il possédait une classe naturelle. Je crois qu'aimer autrui est à la base de la morale vitale. Je crois que les règles de la société se fondent elles aussi sur cet amour qui est, ou devrait être, le principe même du vivre ensemble. Alors, comme j'ai parlé de Diogène, et je n'aurai pas le temps de faire tout mon cours, c'est pas un cours, hein, vous avez compris, c'est un entretien, mais enfin j'espère vous apprendre certaines choses quand même. Mais j'ai tellement de plaisir à parler avec vous. Alors, bien sûr, la prochaine fois, quand nous nous verrons, nous continuerons, je pense, je ne peux pas avoir fini aujourd'hui, donc nous continuerons la morale et le plaisir. Alors là, je vais vous parler de Diogène. Là, je continue, hein, je n'ai pas fini. Diogène. Quand on dit aujourd'hui, parce qu'on l'appelle Diogène le cynique, quand on dit aujourd'hui de quelqu'un qu'il est cynique, cela signifie qu'il ne donne de valeur à rien. Mais à l'époque, mes amis, en Grèce, être cynique signifiait surtout refuser les lois et le conformisme d'une cité. Les cyniques prêchaient aussi un retour à la nature. Alors, je rappelle que Diogène le cynique a su se faire remarquer. Mais sachez qu'il avait été un enfant de bonne famille, comme on dit. Son père était riche, il travaillait dans la monnaie, il avait un rang social élevé, privilégié. Diogène, a été élevé dans un milieu où les traditions et le beau langage existaient. Est-ce la cause de la philosophie soudaine de Diogène ? On n'en sait rien. Mais on a accusé son père de falsification de monnaie, on a exilé toute la famille de la cité, et ils sont partis à Athènes. Eh bien, mes amis, tout pour lui s'est effondré d'un coup. Il s'est rendu compte, et on peut le comprendre, que tout dans la vie est dérisoire. Et en plus, il a vu les Athéniens abêtis, ramollis, par les banquets, par une vie de luxe, par leur ambition. Bref, il les a trouvés dégradés. Pour lui, ils avaient perdu toute leur grandeur. Alors, il aurait pu être désespéré, vous me direz, il aurait pu. Eh bien, il ne l'est pas. Il veut repartir à zéro. Mais il s'est métamorphosé. Il ne croit plus maintenant qu'à l'autarcie, à l'autosuffisance et au désir de ne dépendre de rien ni de personne. Il prêchera la simplicité et le détachement de tout, et surtout le mépris des honneurs. Il a eu un maître, vénéré par lui, Antisthène, je crois, et ce maître lui a beaucoup parlé. Alors lui va incarner cette philosophie reçue et la pousser à sa manière jusqu'au bout, moi je dirais personnellement jusqu'à l'extravagance. Hein. Bon, il dort dans un tombeau, c'est-à-dire... Dans un tonneau, je veux dire. Il dort dans un tonneau, c'est-à-dire une jarre, hein, une jarre allongée par terre. Il boit dans ses mains, depuis qu'il a vu un enfant le faire, alors qu'il était encore possesseur d'un gobelet. Il embrasse les statues, il se roule dans la neige, il marche pour se brûler les pieds dans le sable brûlant, et on nous a raconté sa visite chez Platon. Invité dans la riche et belle demeure de Platon, vous savez ce qu'il a fait ? Il a commencé par s'essuyer les pieds, sur les beaux tapis. Il méprisait tout. Il refusait même d'être poli et normal parce que cela lui semblait une convention. Alors, mes amis, vous vous doutez bien que Platon n'a pas dû renouveler l'invitation. Alors, pourquoi l'a-t-on appelé Diogène le cynique ? Parce qu'en grec, syno, C-Y-N-O, veut dire chien. Il s'appelait lui-même le chien. Et il voulait revenir totalement à la nature et vivre comme les chiens. Il quémandait sa nourriture, ne remerciait jamais, ne se lavait pas, parlait parfois durement aux gens rencontrés. Bref, il avait refusé de faire partie des humains. Il appelait cela philosophie. Comme moi, je vous le dis, je vois là un grand trouble mental. Alors, certains philosophes actuels semblent s'en souvenir gaiement et osent le traiter de philosophe, comme ce fut le cas de mon ami Bertrand Vergely. Mais j'ai beau chercher, je ne vois pas à quoi lui servirait sa philosophie. Provoqué à sa manière, c'est toujours dégoûter ceux qui l'approchent. Dire à Alexandre le Tout-Puissant « ôte-toi de mon soleil » quand ce dernier lui demande ce qu'il pourrait bien lui offrir, ce n'est pas pour moi un langage de philosophe, mais de mal appris. Secouer les gens rencontrés, les bousculer, vraiment, ce n'est pas les heurter pour les faire changer de vie et comprendre que tout est vain sur terre, eh bien, ce n'est pas pour moi être philosophe. Non, non. Parce que les heurter, les faire changer de vie et comprendre que tout est vain sur terre, ça pouvait être possible par d'autres moyens. Alors, il avait choisi de vivre en marginal. Et voilà, c'est son choix. Vivre une vie de chien, s'affranchir de la politesse et de la bienséance, uriner en public, déféquer dans la rue et j'en passe, ne pas tenir compte de la sensibilité de personne. Je n'appelle vraiment pas cela être philosophe, mais j'appelle ça un cas psychiatrique. Et même si chez lui, ce fut une méthode volontaire. Nous ne sommes pas des chiens, et les personnes que nous côtoyons n'en sont pas non plus. Et pourtant, mes amis, vous savez bien qu'il sait dire des choses si percutantes. Il est cultivé, il a beaucoup voyagé, beaucoup appris. Il a été le précepteur d'un enfant, de l'enfant de quelqu'un d'important. Il ne manquait pas d'humour. Car quand on lui a demandé ce qu'il savait faire, vous savez ce qu'il a répondu ? Il a répondu « commander ». C'est spirituel, ça, hein ? C'est spirituel. Bon, mais s'émanciper des conventions, vivre dans la nature, retrouver notre nature humaine fut son but et son enseignement. Mais il s'est trompé. Il s'est trompé. Car la nature fait partie de la nature. La culture fait partie de la nature. Comme l'ont montré tant et tant de philosophes. Oui, nous sommes faits pour être cultivés. Rousseau l'avait très bien expliqué. La culture, lui aussi, aimait la nature. Mais la culture faisait partie de la nature. Voilà pourquoi il avait tant parlé de l'éducation, d'une manière formidable d'ailleurs. Alors, quand il marche une lanterne à la main, en plein jour, et quand il crie « Je cherche un homme », je ne crois pas que les passants l'aient vraiment compris. Or, il parlait d'un homme naturel, issu tout droit de la nature. Oui, ben, je vous le redis, pour terminer, il était un artiste de la provocation, et comme il parlait bien, il fut vite connu dans la cité. Bon, il avait un grand but, c'est vrai, libérer l'homme d'un carcan et réformer l'homme intérieur. Mais j'en demande pardon à ceux qui sont enthousiastes quand on parle de lui, mais moi je pense qu'il s'y est vraiment mal pris. Voilà, j'ai parlé de lui hors de tout contexte, car il fallait vous le présenter un peu. Maintenant, j'arrête pour aujourd'hui. Chers auditeurs, chères auditrices, je sais que nous continuerons encore longtemps ce sujet sur la morale et le plaisir. Maintenant, je vais vous dire au revoir et vous laisser avec Jean Reynald, mon frère, car le mois de juin est celui de son anniversaire, et je désire que ce talentueux compositeur que j'aime soit avec nous aujourd'hui. Puis, je vous laisse avec Jules Berbécaud, ce merveilleux chanteur, grand ami de mon père, qui a aussi beaucoup aimé Jean Reynald, parce que Jean Reynald, toujours paternel, même aussi jeune, s'était avec tendresse occupé de lui quand Georges Prêtre, Jules Berbécaud ont fait l'opéra d'Arane. C'était un très beau trio, Bécaud, Prêtre et Jean Reynald. Et ce trio existe toujours aujourd'hui, mais au ciel. Mes amis, je vous laisse, à bientôt. À toi Jean Reynald, à vous Gilbert.
les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Elle a rompu et corrompu même l'enfance. Un homme marche, un homme marche, tombe, crève dans la rue. Eh bien, personne ne l'a vu. L'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, chez toi tu n'es qu'un inconnu. L'indifférence, tes enfants ne te parlent plus. L'indifférence, tes vieux n'écoutent même plus quand tu leur causes. Vous vous aimez et vous avez un lit qui danse. Mais elle guette, elle vous guette et joue au chat, à la souris. Mon jour viendra, qu'elle se dit, l'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, tu es cocu et tu t'en fous. L'indifférence, elle fait ses petits dans la boue. L'indifférence, il n'y a plus de haine, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus grand chose. L'indifférence, avant qu'on en soit tous crevés d'indifférence, je voudrais l'avoir crucifiée. L'indifférence, qu'elle serait belle écartelée. L'indifférence.
Il avait des jardins et des châteaux. De son cœur jaillissaient des princesses et des jets d'eau. Des enfants qui riaient et qui faisaient du vélo. J'avais devant moi un homme heureux. Ça se voyait, se sentait, c'était clair comme de l'eau. Il n'était pas pareil, il brillait comme un soleil. J'en avais, j'en avais, j'en avais les larmes aux yeux. J'avais devant moi un homme heureux. Faut penser si je m'en souviens de ce gars qui avait l'air de rien, à part ses ailes, à ses souliers. Bon, on s'est assis sur le trottoir, les gens défilaient sans nous voir. Je ne suis pas allé travailler. Et il m'a raconté sa vie, et il m'a expliqué la vie, comme si j'étais son seul ami. Dans ses yeux, il avait des jardins et des châteaux. De son cœur jaillissaient des princesses et des jets d'eau. Des enfants qui riaient et qui faisaient du vélo. J'avais devant moi un homme heureux. Ça se voyait, se sentait, c'était clair comme de l'eau. Il n'était pas pareil, il brillait comme un soleil. Faut dire qu'il, faut dire qu'il, faut dire qu'il me fascinait. J'avais devant moi un homme heureux. Je pensais qu'il exagérait et que ses ailes à ses souliers, c'était rien que pour m'embêter. Comme j'avais envie de le tuer, j'ai dit qu'un bateau m'attendait. Et puis je suis parti à pied. Il s'était bien moqué de moi, sûr qu'il m'y reprendrait pas. Mais quand je suis rentré chez moi, dans ma chambre il y avait des jardins et des châteaux. De mon lit jaillissaient des princesses et des jets d'eau. Des enfants qui riaient et qui faisait du vélo. J'étais devenu un homme heureux. Je volais, je planais, j'étais clair comme de l'eau. Ça montait, ça poussait, j'ai des ailes à mes sabots. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, c'est contagieux. Tu as devant toi un homme heureux.
Lorsque viendra le dernier jour, ce sont les oiseaux qui mourront les premiers. Les hirondelles et les petits moineaux, les tourterelles. Et puis leur tourtereau. Lorsque viendra le dernier jour, c'est le jardin qui mourra le deuxième. D'abord la rose, le lys et les œillets, les lauriers roses et les champs de genêt. Lorsque viendra le dernier jour, ce sont les humains qui mourront les derniers, les fous poètes, les jeunes et les vieux, ces marionnettes pendues au doigt de Dieu. Lorsque viendra le dernier jour, parmi ce désert de la désolation, cœur qui batte. Soudain, on entendra deux cœurs qui battent et tout recommencera. Lorsque viendra le dernier jour,
la vie super compliquée, il y a le travail, il y a les trajets, le patron qui est pas content. Le manque d'argent, le copain qui s'est tiré avec les sous que t'as prêté, la moto qu'on t'a piqué et le temps mauvais. Mais rien de tout cela ne compte plus lorsque tu as un enfant malade, un gosse en danger, pauvre camarade, tu es désemparé. Ses yeux te regardent comme s'il te disait fini nos balades, fini nos jouets. Le travail on s'en fout bien, l'argent ne sert plus à rien, la pendule est arrêtée, le monde est bloqué, ton ménage qui craquait se voit soudain ressoudé, l'univers s'est fait petit autour de son lit, car rien de tout cela ne compte plus lorsque tu as ton enfant malade, ton gosse en danger, pauvre camarade, tu es désemparé. Ton enfant malade, ton gosse en danger, ta vie, camarade, tu la donnerais. Mais quand tu sais l'enfant sauvé, alors là tu te mets à pleurer.
Thank you.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Isabelle Prêtre, émission préenregistrée le 10 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 14 juin, de midi à 13h30 et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.